le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord. Christophe Pastet.
On jardine avec les bons conseils de Jean-Louis jusqu'à 10h au 05 53 53 82 82. Pour vos questions, dites donc Jean-Louis, j'ai bien envie, avant que vous nous parliez de votre coup de cœur de ce matin, de vous donner une petite citation du troisième président de la République française, Mac Mahon. Que d'eau, que d'eau.
Oui, vous n'êtes pas trop cassé la tête pour celle-là, quand même.
Bah non.
Il suffit d'aller dans le jardin et tout le monde peut faire la même citation.
Voilà, ça fait platch, platch aussi.
Toujours.
Voilà, c'est un futur président de la République dira, ça fait splatch, platch. Sinon, votre coup de cœur, heureusement, lui, est d'une beauté folle, venue du soleil levant, le Caria japonica.
Oui, ou la corette du Japon. Alors voilà un bel arbuste que l'on voit malheureusement moins dans les jardins et c'est bien dommage. Dans les jardins de nos grands-parents, parents, il y en avait souvent. Pourquoi ? Parce qu'il suffisait de prendre un morceau dans un jardin familial, on l'a ramené chez soi et hop, ça bouturait, ça redémarrait tout simplement. Donc c'était d'usage à l'époque, et puis ça l'est moins. Bon, on va essayer de le remettre un petit peu en avant. Alors c'est un arbuste caduc, mais ses belles tiges vertes restent décoratives même en hiver. Sa floraison jaune est un véritable éclat de soleil en ce début de printemps, d'autant plus que la variété la plus connue, qui s'appelle Plenifolora, fait des pompons à fleurs doubles, et sa couleur est jaune, jaune safran, comme sur le Facebook.
Oui, magnifique.
Une photo en gros plan que je suis allé prendre chez le voisin, tout simplement.
Que l'on salue au passage.
Oui, bonjour à mes voisins. Je suis allé l'autre jour faire une petite photo et vraiment, le soleil tapé dessus, on se rend compte tout de suite de la couleur. Alors, c'est la plante idéale pour boucher des trous dans des variétés. Il sera encore plus spectaculaire s'il est planté à côté de Photinia. Le Photinia, vous savez, c'est cet arbuste avec les pousses rouges qu'il y a en ce moment. Vous en mettez un à côté, ça claque. Un beau lilas de printemps violet qui commence à fleurir, le contraste est pas mal. Ou si c'est à côté d'une céanote bleue qui vont pas tarder à ouvrir, le contraste est bien aussi. Il est très rustique, le Caria, moins 25, lui fait pas peur.
Oula.
C'est quand même pas mal. Il s'adapte à tous les sols, sauf un trou rempli d'eau et plein d'argile, ça faut quand même pas pousser. Son développement est limité, 1,50 m, 2 mètres de haut, et surtout, on lui connaît pas de maladie ni d'insectes. Donc, c'est quand même pas mal. Au niveau entretien, et ça va vous plaire, un coup de sécateur fin mai, une poignée d'engrais, c'est fini pour l'année.
Très bien.
Quand je peux aider,
La
multiplication est inratable. Division de drageons, c'est-à-dire qu'à fin février, on va au pied, il y a toujours des petits drageons qui sortent. Bon, bam, un coup de bêche, ça y est, on a un plan. Bouture de septembre, alors ça prend à 99,9%. Je pense que vous êtes peut-être vous, Christophe, dans la catégorie des 0,1% qui le louperait.
Voilà. Mais bon. Voilà. Mais ça peut arriver.
Ça peut arriver.
On sait jamais.
En conteneur de 2 ou 3 litres, vous comptez 10 à 12 euros. J'en ai vu cet hiver en petit conteneur de la ligne 5 à 6,50 euros. Donc, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas, testez une corette du Japon et si possible, Plenifolora. C'est le beau jaune safran. J'ai vu sur le Facebook que Patrice se nommait, il irradie rose, pas jaune.
Oui, c'est
Patrice,
drôle.
J'aimerais bien avoir une photo de ce Caria rose. Je sais que ça existe.
Il irradie rose.
Moi, le matin, je suis à fond dans la rubrique. Je suis pas du tout dans l'humour. Je sais que ça existe.
En revanche, il y a. Ah bon, ça existe réellement?
Ça existe, mais ça représente 0,001%.
Ah, ça marche avec moi, ça.
Voilà.
Sinon, il y a Valérie qui nous écrit qu'elle en avait deux, mais elle les a perdues peut-être dues à des étés trop chauds.
Alors, été trop chaud, pourquoi pas? Malgré tout, si c'est pas taillé, ça vieillit précocement. C'est-à-dire que quand on est rendu, mi-mai, les dernières cartouches de fleurs sont dessus, on attend fin mai, on prend le sécateur, et quasiment, on rase. Il faut le régénérer tous les ans. Donc, je pense que ça, cumulé à un sol peut-être argileux, dur, compact, ma foi, c'était pas de son côté. Ça vaut le coup de le retester, Valérie, réinsister. Pensez à le mettre à côté d'un arbuste à feuillage spectaculaire, ça fera un beau contraste.
Voilà, donc merci pour ce beau coup de cœur pour le Caria japonica et encore bravo à Patrice de Montignac pour Il irradie rose. Vos questions sur le jardin ce matin à Jean-Louis 05 53 53 82 82.
On jardine le dimanche sur France Bleu Périgord jusqu'à 10h.
Et voici Émile Vandelmer et ses copains aux doigts d'or, les Goldfingers, devenus Gold, parce que c'était un petit peu plus court, voyez-vous. Nous sommes au cœur de la cité toulousaine dans les années 80 et nous allons bien sûr les laisser chanter. Laissez-nous chanter avec le groupe Gold.
Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord. Christophe Pastet.
On jardine avec les bons conseils de Jean-Louis au 05 53 53 82 82. Nous sommes en Charente, à Montmoreau-Saint-Cybard. Bernadette, bonjour.
Bonjour, bonjour Jean.
On vous écoute Bernadette. Quelle étrange plante avez-vous dans votre jardin ?
Merci. Petit Lagerstrémia qui était en fleur dans une grande surface.
Un Lagerstrémia.
Oui, l'arbuste rose.
Ah, d'accord. Donc vous l'avez acheté l'année dernière.
Je l'ai acheté l'année dernière, voilà. dans un pot, mais en petit conteneur. Mm-hmm. Comme je n'ai pas pu le mettre en pleine terre, je l'ai laissé comme ça, et puis bon, il était dehors. Et j'ai cru cet hiver qu'il avait gelé, mais j'ai vu en bas, sur la tige, il bourgeonne.
Oui. Ah bah, rendu à cette époque,
il... comment je vais faire pour le replanter.
Alors Bernadette, rendu à cette époque, il a que ça à faire. Hein. Faut qu'il bourgeonne, ça veut dire qu'il est en vie, tout va bien. Eh ben, ça va être le bon moment de le mettre en pleine terre. Hein. Va juste falloir réfléchir à l'endroit où vous allez pouvoir le disposer dans le jardin. Moi, je vous donne deux, trois indications. Il adore le plein soleil. Donc ça, c'est à cocher obligatoirement. Oui. Ça serait bien qu'il n'y ait pas de concurrence juste à côté. Donc c'est un Lagerstromia, hein, c'est un lilas des Indes. Donc il n'aime pas la concurrence à côté, il faut lui laisser un petit peu de place. Donc s'il peut avoir un espace où à 1m50 de chaque côté, il n'y a personne, c'est pas mal. Vous pouvez évidemment le mettre sur la pelouse, hein, dans un massif, c'est plus difficile à intégrer. Et puis surtout, il y aura quelques bonnes pratiques à faire, à savoir... Quand vous allez le planter, vous allez le tailler. Même s'il n'est pas très haut, alors c'est un geste. Souvent, les Lagerstromiens, on ne les taille pas suffisamment. Mais là, je ne sais pas, il fait quoi, 30 cm de haut?
Oh, plus que ça, il doit faire 1m50.
Ah, bah, vous avez acheté un joli Lagerstromia en pot, dites-vous. Eh ben, vous allez le rabattre au moins d'un tiers, si c'est pas 50%. Moi, je trouve que la première année, c'est important de le retailler assez court. Donc, 50%. Toutes les petites brindilles qui n'ont aucun intérêt, à moitié sèche, qu'il y a partout, vous les coupez également. Un joli trou, 40-40. Alors, dans une brouette, vous aurez mis la terre du jardin mélangée à du compost ou à du terreau plantation, une ou deux belles poignées d'engrais organiques, hein, pour pas brûler les racines. Vous l'installez, vous l'arrosez. Alors, évidemment, là, tout est trempé en ce moment, mais l'arrosage permet d'enlever les bulles d'air et de bien faire coller toute la terre aux racines.
Oui.
Évidemment, quand vous le sortez du pot, avec un petit cutter, là, vous grattez les racines, parce qu'il y a souvent un joli chignon racinaire, comme ça, ça oblige les racines à partir de tous les côtés.
Oui.
Et puis, quand sera rendu au mois de juin, vous y penserez, parce que bien souvent, on a un petit champignon coquin qui s'attaque à nos beaux lilas des Indes, hein, c'est de l'oïdium. Vous savez, la même poussière blanche qui va sur les rosiers ou sur les courgettes. Eh bien, au mois de juin, vous y pensez une fois ou deux, vous faites un traitement à base de soufre, produit naturel, très efficace contre l'oïdium sur le lilas des Indes. Et au moins, comme ça, ça ne va pas contrarier les boutons. Les boutons pourront s'épanouir. Vu la taille qu'il fait, dès cette année, vous aurez des fleurs. Donc, c'est plutôt sympa. Et là, alors, il n'y a pas urgence de plantation. Hein, c'est pas obligatoirement cet après-midi. Mais dans la semaine qui vient, ça serait parfait pour l'installer dans votre jardin, Bernadette.
Ben oui, je vois à peu près où c'est que je peux le mettre.
Et ben alors.
J'ai des tonnes à eau, des réserves d'eau de pluie. Et de l'autre côté, il y a un pommier.
Ah ben là, si vous oubliez de l'arroser cet été, on n'y peut rien.
Hein. Oui, oui.
Eh bien, c'est parfait.
Voilà, Bernadette.
Je vous remercie pour vos conseils. Bonne journée, bon week-end de Pâques.
Excellent week-end à vous. Vos questions à Jean-Louis ce matin, jusqu'à 10h, 05 53 53 82 82.
On jardine le dimanche sur France Bleu Périgord avec les menuiseries Segui, portes et fenêtres fabriquées ici, installées par nos partenaires menuisiers. Rejoignez-nous sur menuiserie-segui.fr.
Il a 22 ans, il est la nouvelle vedette espagnole de la chanson et comme il a reçu une éducation catholique, nous allons l'écouter religieusement. En ce dimanche de Pâques, voici Íñigo Quintero.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu tramitar, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte, no quiero ver nada posible. Es demasiado tarde, todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde donde estoy y no vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de quién soy y dónde estás. La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. A tu amor. A tu amor, amor, no, 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 no. Ya, na, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya.
Si no estás avec Iñigo Quintero.
Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord.
Votre jardin, vos questions à Jean-Louis, 05 53 53 82 82. Nous sommes à Sarlat. Josette, bonjour.
Oui, bonjour Christophe.
Vous
bonjour
avez Jean-Louis. Rencontré un problème avec votre arbre de jade. Que se passe-t-il?
Oui, il a du miel là-dessus.
Aïe, il a du miel là. Alors, Josette, il va falloir l'observer vraiment d'un petit peu plus près. Quand on a du miel là, donc le miel là, c'est cette matière un peu collante là. Dès qu'on touche la plante, on a les doigts qui sont un petit peu englués. S'il voilà. en a, c'est qu'il a une présence d'insectes. Et systématiquement, la production de miel là est faite par des insectes piqueurs-suceurs. C'est-à-dire qu'ils piquent la sève, bah, ils se nourrissent, ils la digèrent, ils ont des excréments qui sont du miel-là. Alors, il y a deux options. Soit c'est des pucerons, j'en doute à cette époque, ou alors il y a eu une grosse quantité de pucerons.
Que ce soit des pucerons, parce que...
Soit c'est des pucerons de l'été dernier qui ont bien vécu sur la plante. Et vous la mettez dehors en été ou
je
pas?
Je la mets dehors l'été et je la rentre fin octobre.
Ouais, très bien. Donc du coup, soit c'est une population de pucerons qui était dessus cet été, qui a bien cassé la croûte et qui a fait des excréments partout et ça reste collant longtemps. Soit il y a quelques cochenilles qui ont été rentrées en même temps que la plante au mois d'octobre et qui, elles, ont vécu au ralenti tout l'hiver, mais ont quand même, puisque la plante est verte et leur apporte à manger, ben, ma foi, ils ont cassé la croûte, ils ont fait aussi des excréments. Alors vous n'allez pas vous casser la tête, il n'y a pas eu trop de feuilles jaunes à se faire dessus.
Il n'a pas de feuilles jaunes, il est ouvert, il est bien, il est magnifique.
Donc c'est que la population...
Tout ça.
D'accord, la population d'insectes... La population d'insectes n'est pas très forte. Il y a de fortes chances qu'ils aient été rentrés au moment de l'hivernage, la fin octobre, début novembre. Alors, en magasin, vous savez, hein, pratiquement tous les week-ends, on parle de deux produits pour lutter contre les insectes piqueurs-suceurs. On est bien d'accord, ce sont pas des produits pétrochimiques, il n'y en a plus. Vous pouvez faire le traitement, vous mettez la plante dans le garage ou sur la terrasse un jour où il fait beau pour pouvoir la traiter. Vous avez le choix. Soit avec le spruzite, notre fameuse huile de colza, dans lequel il y a de la pyrèthre végétale, ça fonctionne très bien si, je dis bien si, vous faites deux traitements dans la même heure avec un pulvérisateur. On l'arrose pas par le dessus, on prend un petit spray ou un pulvérisateur, on respecte la dose d'utilisation indiquée sur le produit, et vraiment, vous faites le traitement dessus, une petite demi-heure de repos, et dans la foulée, alors c'est pas 5 minutes près non plus, un deuxième traitement pour être sûr de couvrir la globalité de la plante pour que les insectes soient étouffés par le produit.
Oui, et quand arrivera le... Il fait au moins 50 de diamètre par 60 de haut, il est beau, il est magnifique. Mais...
Bon, ben moi je pense qu'il y a des cochenilles qui sont planquées parce qu'il est tellement gros que vous pouvez pas écarter les branches pour voir où c'est. Donc avec le pulvérisateur...
D'accord.
Vous insistez bien. Mais quand vous le sortirez, je pense pas avant le mois de mai, hein, ça serait embêtant.
Non, je le sors après le 13 mai, moi, quand les scènes de glace sont passées normalement.
Voilà. Bon, après, il gèle tellement rarement au sein de glace que c'est surtout le repère ou le bon sens qu'il va y avoir à ce moment-là. Mais voilà, quand vous le sortirez, eh ben, directement, vous referez un traitement. Pourquoi? Parce que la population d'insectes dessus a certainement mis des petits et des œufs un petit peu partout. Ils vont éclore, ben, en les traitant au mois de mai quand vous allez sortir, vous dégommerez cette deuxième génération et il sera parti pour faire un bel été. Il fleurit tous les ans?
Là, ça fait 2 ans qu'il n'a pas fleuri.
Ah bah ouais, alors il a peut-être une population d'insectes qui lui dérive un petit peu la sève depuis quelques temps, ça va lui faire du bien. Donc 2 traitements, 2 fois dans la même heure, quelque part, hein, il y a une demi-heure d'intervalle, et rebelote quand vous le sortirez, d'accord, tout ira mieux, c'est pas un problème. Dans la foulée, s'il y a une plante verte...
2 traitements dans la même heure.
Voilà, 2 traitements dans la même heure, et surtout, vous cherchez bien dessus, dessous, c'est comme si vous vouliez le repeindre, voilà.
Voilà, Josette, bon week-end à vous. À Sarlat. Dans un instant, nous serons à Chantérac-Jean-Louis, oui. Nous irons nous occuper du yucca de Guy.
Meitasse, meitapol, les michiou occitanes des Franches Bleu Périgord.
Ce dimanche, de 11h à midi, nos invités seront Laurence Salès, coordinatrice du projet Culture Occitane au sein de l'agence culturelle départementale d'Ordogne-Périgord, et l'artiste Rodin Kaufmann. Tous deux, nous parlerons de leur travail ainsi que du programme des journées Génération Parade 2024. Lou Parade, Aïdé Chagur, chez Franche Bleu Périgord.
Meitasse, meitapol, les michiou occitanes des Franche Bleu Périgord.
Nos terres agricoles subissent déjà les conséquences du changement climatique. L'agroforesterie est une solution qui associe la plantation d'arbres aux activités agricoles existantes. Laurent Isambert, agriculteur, nous en parle.
J'ai planté une première parcelle, donc on a entouré de haies. Pour moi, l'agroforesterie répond à pas mal de ces enjeux, que ce soit en termes de biodiversité ou d'excès climatique.
La Fondation Goodplanet soutient la transition agroécologique. Pour nous aider, rendez-vous sur goodplanet.org.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Périgord, ici, on parle d'ici.
Chez vous, il est 9h31, c'est votre jardin avec Jean-Louis et ses bons conseils au 05 53 53 82 82. Nous sommes à Chantérac. Guy, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour Jean-Louis et joyeuse Pâques.
Merci bien, oui. Pareillement Guy. Vous avez donc dans votre jardin un yucca.
Voilà, entre autres, hein, j'ai envoyé 2-3 photos à Jean-Louis. Il y a un yucca, oui, qui pousse, mais les feuilles au bout sont toutes noires et certaines feuilles retombent. Je sais pas si vous avez vu sur la photo.
Oui, photo que vous pouvez nous envoyer, je le dis au passage, sur bleuperigord@radiofrance.com.
Alors, Guy, j'ai une question sur ce yucca qui est importante. Il a passé l'hiver dehors.
Il a passé l'hiver dehors, oui.
Bon,
oui.
Alors, quand il commence à faire des pointes noires comme ça, je vois qu'il est en pot. C'est révélateur de stress hydrique permanent. Le stress hydrique permanent, c'est quoi? Soit où il a barboté avec beaucoup trop d'eau.
Oui.
On dirait que cet hiver, depuis le mois d'octobre, c'est pas de sa faute. Hein. Ou alors, l'été dernier, il a eu des périodes de sec, même si le yucca est une plante qui résiste parfaitement au sec, il a eu des périodes de sec qui ont duré un petit peu et il est allé vraiment puiser au maximum. Alors, il n'y a qu'une seule solution pour lutter contre ça, ça serait de le mettre en pleine terre à un moment ou à un autre.
Okay,
dans un endroit où l'eau ne reste pas, je vois qu'il commence à être de belle taille, il n'a pas commencé à fleurir.
Non, il n'a pas encore commencé à fleurir.
Éventuellement, rien ne vous empêche, pour que d'un point de vue esthétique ce soit plus sympa, vous donner un petit coup de ciseau sur les feuilles les plus sèches, les plus atteintes, sur les extrémités. Mais il faut savoir que dans le temps, de toute façon, c'est une plante qui naturellement le fera. Ça reste pas aussi, on va dire, correct à longueur de temps. Ma foi, en vieillissant, ça le fait. Le fait qu'il soit en pot a accéléré le processus. Donc là, on va rentrer dans une période, la terre va se réchauffer, ça sera le moment idéal. À vous de choisir l'endroit où il ne gênera pas, parce que ça va finir par prendre un peu de proportion, ou surtout, il n'y a pas d'enfant qui joue à côté pour que le ballon n'aille pas se ficher dedans à chaque fois. Quoi.
D'accord, non, les enfants sont chez les parents.
Ah, bah, c'est pas mal, ça. Ok, donc le yucca, c'est fait. Il y avait d'autres photos, je crois.
Oui, il y a le papyrus, il fait des jeunes pousses, et elles noircissent au bout de...
Oui, j'ai vu. Alors, pour Christophe, un papyrus, c'est pas un grand-père d'origine slave.
Je n'allais pas l'oser, mais j'y ai pensé très fort.
Vous êtes méchant, là.
c'est tellement facile.
Oui, c'est sûr.
Alors dites voir, ce papyrus, vous savez bien que il y a un rythme sur le papyrus. Ils sont spectaculaires en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et puis après, c'est le repos de végétation. On n'est pas sur les bords du Nil, on n'est pas dans des régions tropicales. Donc du coup, il faut accepter qu'en hiver, ils changent d'aspect. Moi, comme je suis là, je le raserai. Je le ramènerai à 10 cm du sol.
Ouf. 10 cm du sol, oui.
Voilà, un gros nettoyage. J'enlèverai un petit peu les billes d'argile pour y mettre... on va dire que sur la taille du pot, là, vous distribuez une belle poignée d'engrais organiques incorporer dans la terre, vous griffez un petit peu tout ça, vous remettez les billes d'argile, et puis surtout, vous pensez à un arrosage régulier. Alors un arrosage régulier, évidemment, après toute cette période-là, ça ne veut pas dire grand-chose, mais dès qu'il va se mettre à faire beau, il ne faut absolument pas qu'il prenne le sec. Mettre une soucoupe en dessous, c'est embêtant pour les moustiques tigres. Donc à vous de gérer un arrosage vraiment parfait. Je serais presque à vous dire... S'il y a un coin du jardin qui reste très humide, pourquoi pas le planter en pleine terre avec son pot ? Ce qui permettrait, en cas d'hiver très difficile, qui est annoncé un petit peu à l'avance, une semaine avant, oh là, on va nous annoncer du moins 10, moins 12, vous prenez la bêche, vous le sortez avec le pot, et là, vous l'hivernerez à ce moment-là. Mais c'est un plan B possible.
D'accord, super.
Et puis, alors là, vous avez
peut-être... J'ai beaucoup de questions aujourd'hui.
Mais oui, mais regardez, on avance bien, on est déjà à la dernière.
Ah, super, donc, super.
Puis vous me parlez d'une plante qui est bizarre dans un camélia, c'est ça ? C'est un camélia qui est en pleine terre ou il est en pot ?
Non, il n'est pas en pleine terre, je suis encore.
Il est en pot. Alors, du coup, on se retrouve avec un camélia dans lequel... Il a combien d'années, votre camélia, là ?
Oh, celui-là, il a deux ans, il a le camélia. Oui, ma femme
deux ans. Deux ans. Alors, en fait, quand vous l'avez acheté, quand vous achetez une plante en pot, ma foi, les mélanges terreux, les substrats qui sont utilisés par les pépiniéristes, sont des substrats qui viennent de tourbières, qui viennent de broyages de feuilles, etc. Donc, dedans, il y avait des petites graines d'un saule caprea.
Le saule caprea. Un arbre, je me passe quelque chose.
Voilà. Donc, ce saule caprea, si vous ne l'enlevez pas, le camélia n'a aucune chance. Il ne pourra pas lutter contre un saule caprea. Donc, vous savez, c'est ce joli saule qui fait des petits chatons qu'on voit partout, là, au mois de février, sur le bord des routes, où il y a les zones un petit peu humides. Eh bien, ma foi, là, vous allez prendre un cutter, vous allez essayer d'arracher au maximum sa racine. Ça ne baissera pas plus que ça, le camélia, mais il faut le virer absolument.
Bien sûr. Non, mais je vous...
Voilà.
Super. Je vous remercie bien.
Virez-moi tout ça.
Bonne journée.
Bonne journée, bon week-end à Chantérac, Guy. Dites-moi, Jean-Louis, vous étiez sur le marché de Sarlat hier.
Racontez-nous. Oui, j'étais sur le marché à faire mes courses. J'étais pas en démonstration à vendre quelque chose. Non. J'ai fait une jolie découverte avec mon épouse. On est tombé sur une agrofleuriste. Une agrofleuriste, c'est donc une agricultrice, qui cultive des fleurs coupées. Alors ça, c'est vraiment génial. Elle est basée à Siorac. Elle est sur le marché de Saint-Cyprien ce matin. Et pourquoi j'en parle ? Parce que déjà, acheter des fleurs coupées françaises, c'est bien. Quand elles sont locales, alors là, c'est plus que mieux. Cette jeune femme propose des tulipes, des anémones, des renoncules, des élébores en fleurs coupées. Alors, des tulipes que vous verrez pas chez les fleuristes, je vous le dis d'avance. Oui. Des panachées, des fleurs de lys, des fleurs perroquets, enfin vraiment super. Et surtout, pendant tout le week-end, ma foi, en plus de cette activité qui est quand même bien prenante et un peu anxiogène, quand vous êtes en production horticole, ce week-end, elle redonne 10% de son chiffre d'affaires à une association qui s'occupe de biodiversité, d'éducation pour les enfants, à semer des plantes, à avoir des arbres fruitiers, à s'occuper de ruches, etc. Je trouve que l'idée est géniale. Elle est sur le marché de Saint-Cyprien et sinon, elle est basée à Siorac.
Et on la salue au passage, naturellement. Merci bien.
On peut lui dire hello, parce que j'ai l'impression que cette jeune femme est un peu du Royaume-Uni.
Mais il n'y a pas de mal. On les accepte quand même du moment qu'on les bat en rugby, tout va bien.
C'est ça.
Vos questions au jardin à Jean-Louis ce matin, 05 53 53 82 82. Retour en 1966. Cette année-là, Jacques Dutronc est devenu jardinier, Jean-Louis.
Oui.
Il s'est spécialisé assez rapidement dans les cactacés.
Oui, il s'est piqueté.
Toutes les chansons de votre vie sont ici, sur France Bleu.
cactus avec Jacques Dutronc.
9h-10h, on jardine sur France Bleu Périgord.
Et le jardin avec Jean-Louis et vos questions, 05 53 53 82 82. Nous sommes à Coulounier-Chamiers. Michel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez chose étrange dans votre jardin, un figuier qui fait des figues.
Oui, qui fait des figues, mais qui n'en apporte pas, parce que en ce moment, bon, il commence juste à débourrer, à démarrer, et alors il y a plein de petites figues, qui sont grosses comme des petits pois. L'année dernière, ça m'a fait la même chose, et j'en ai pas mangé une, j'en ai pas eu du tout.
Mm-hmm. Dites, Michel, c'est un figuier que vous avez acheté, ou c'est un que vous avez prélevé ?
C'est un figuier qui était sur la propriété que j'ai acheté.
D'accord. Bah, maintenant, reste à savoir si c'est une variété de production ou si c'est une variété dont la fleur n'ouvrira pas et du coup, le fruit ne pourra pas grossir. Mmh. Alors, ces figues-là sont tombées ou elles sont restées sur l'arbre ?
Alors, il y en a qui sont restées, mais après sont tombées, elles ont séché.
Oui. Alors, on va faire un truc un peu radical. Quelle hauteur il fait, ce figuier ?
Oh, il fait 2,50 m, 3 m.
Je m'attends au pire.
Il y a beaucoup de branches dessus ou
Non, parce que je l'ai taillé quand même. Très là, bien. Maintenant, je lui ai donné de bonnes formes.
D'accord.
Et il se plaît parce que là, il redémarre, il met des bourgeons et il est plein de petites figues.
Bon, alors on va essayer d'optimiser un petit peu les choses. Il y a de la pelouse jusqu'au pied ou il y a une zone un petit peu.
Oui, oui.
Bon, ça serait bien d'essayer de dégager un petit peu sur 50 cm au carré sans pelouse au pied, déjà pour pas le blesser lorsque vous tondez. Ça serait l'occasion quand même de lui apporter de l'engrais parce que ça peut être aussi un figuier qui ne trouve pas suffisamment de sels minéraux dans le sol pour faire aboutir ses fruits. Et vous vous rappelez d'une chose, c'est que le figuier, là où il pousse, en général, il aime qu'il y ait de l'eau en dessous. Alors, est-ce que c'est une nature de sol profonde là où il est ou pas ?
Oui, et c'est même un peu argileux, justement.
C'est même un peu argileux. Bon, alors, on reprend les choses dans l'ordre. Vous dégagez un petit peu autour, 50 par 50, pour pas qu'il y ait d'herbe. Vous apportez de l'engrais. Alors, puisque la plante fait 2,50 m de hauteur, bah, ma foi, vous faites des trous, allez, à 50, 60 cm du tronc, vous savez, avec une baramine.
Oui.
Elle s'enfonce toute seule en ce moment. La lâchez pas, elle va être avalée par le sol. Vous faites des trous d'une quinzaine de centimètres de profondeur, grosso modo, hein, c'est pas à 5 cm près, une belle poignée d'engrais, alors, ou un engrais minéral, ou un engrais organique. Ça serait bien un engrais en magasin spécialisé, un engrais de fond dans lequel il n'y a pas d'azote, dans lequel il y aurait que de la potasse et du phosphore. Ça serait un atout supplémentaire, donc un engrais de fond pour les arbres fruitiers. Il est temps de le mettre. Hein. Donc, allez, une dizaine de trous tout autour, un bel apport d'engrais. Et puis, quand arrivera un moment ou un autre, les belles températures et puis des périodes un petit peu sèches qui durent, n'hésitez pas à pailler le sol pour pas qu'il y ait de stress hydrique important, pour pas qu'il y ait des à-coups. Et si vraiment la météo s'installe bien au mois de mai, juin, et on voit que ça dure, peut-être un petit coup de main tous les 15 jours, un arrosage copieux. Alors si vous avez des réserves d'eau, ça serait sympa de lui mettre pas mal d'arrosoirs à chaque fois. Alors je vous dis, tous les 15 jours, 3 semaines, pour qu'à aucun moment il ne déshydrate, qu'il soit toujours très actif. Et puis vous nous appellerez au mois de septembre, octobre, voir comment sont ses figues. Parce que sinon, il y a de fortes chances que ce ne soit pas un figuier de production. Mmh. Donc, on pourra corriger le tir en vous faisant planter une variété plus intéressante. Après, il peut rester là où il est. Ça fait un bel arbre d'ombrage. Si vous le taillez bien, vous pouvez donner des formes assez sympas.
Oui,
on va dire qu'on va essayer de l'optimiser pour qu'il aille mieux dans le futur.
Voilà, Michel.
D'accord. Merci, Jean-Louis. Et bonne fête de Pâques.
Fête de Pâques à vous. Vos questions à Jean-Louis sur votre jardin, naturellement, 05 53 53 82 82. L'amour, la nostalgie, le temps qui passe et le Julien Doré. Avec ce titre, nous.
Pour les revoir se pleurer. la mer, voir si la lune est claire. De quelques têtes hors de l'eau, un monde où tout se perd. Demain c'est juste hier, un peu laissé sur le dos.
Avec Julien Doré.
Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord. Christophe Pastet.
Avec Jean-Louis, le jardinier, nous sommes à Coursac. Bernadette, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment va votre olivier? Que s'est-il passé? Racontez-nous, Bernadette, cette aventure étrange.
Eh bien, mon pauvre olivier, on l'a déplanté parce qu'il se trouvait entre un palmier et un laurier rose. On trouvait qu'il profitait et qu'il était un peu serré. Donc on a voulu lui donner de l'espace, on l'a replanté il y a une quinzaine de jours, et là j'ai l'impression qu'il n'est pas content, les feuilles deviennent toutes noires.
Mmh.
Voilà.
Bon, Bernadette, quel âge il avait cet olivier?
Oh, il y a plusieurs années, hein, on l'avait offert à mon mari, et c'est vrai qu'il avait... Comment?
Non, mais...
Il a une dizaine d'années.
Une dizaine d'années. Quand vous l'aviez eu, il était déjà gros?
Non, c'était un bébé. Il avait du mal d'ailleurs à profiter. Et puis là, il avait bien profité, mais bon.
Quelle hauteur
il le trouvait à l'étroit entre ce palmier et ce laurier rose qu'on taille régulièrement. Donc on a voulu le mettre ailleurs. Mais...
D'accord. Quelle hauteur il fait?
Comment?
Quelle hauteur fait-il?
Ah, oh, il est grand. Il fait bien 1m20, 1m30.
1m20, 1m30 en 10 ans?
Oui, puis il est bien fourni, il était magnifique. Oui,
alors là, il y avait quand même un gros phénomène de pousse qui n'allait pas, parce qu'un olivier qui va mal, c'est 40 cm par an, donc en 10 ans, il devait faire 3 mètres ou 4 mètres. Donc du coup, là, au moins 3 mètres. Donc là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Quand il a été déplacé, le problème quand on déplace une plante, si on l'anticipe avant, c'est-à-dire au mois d'octobre, novembre, on sait qu'on va déplacer l'olivier, on fait ce qu'on appelle un cernage, c'est-à-dire que tout autour du tronc, avec une bêche très profonde, un loucher, on fait le tour de façon à casser des grosses racines pour que les radicelles redémarrent dans l'hiver et que au printemps, quand on décide de le décider, on puisse avoir une très belle motte. En l'occurrence, ça n'a pas été fait, il a été arraché avec une motte de quel diamètre?
Il y avait une grosse motte et du coup, mon mari lui a laissé sa motte. On a une très bonne terre là, sur où on habite, parce qu'il y avait des vignes avant.
Oui.
Une très très bonne terre, tout pousse. Mais on lui a laissé sa motte, on a remis un peu de terre.
Oui, mais la motte, Bernadette, la motte faisait quelle dimension?
Oh, je ne sais pas moi, 30 cm.
Alors 30 cm pour une plante de 10 ans, il a laissé 70% de ses racines dans le sol. C'est-à-dire que là, l'urgence, c'est un peu comme le compte bancaire. Quand il y a trop de crédit d'un côté, il faut que ça soit équilibré avec du débit. C'est-à-dire que là, puisqu'on a laissé, allez, on va dire à minima, la moitié des racines dans le sol, il va falloir que vous le retaillez pratiquement de moitié, parce que vous demandez un effort à la partie aérienne de pousser, alors qu'elle n'a plus les racines pour fournir cette nourriture. Donc, il y a une urgence, et on va croiser les doigts, parce que j'ai peur que au bout de 15 jours, il y ait déjà un petit peu de dégâts. Donc, coup de sécateur, et là, c'est dès aujourd'hui, vous le rabattez à minimum de 30, voire 40% pour équilibrer la masse de racines qu'il a avec la partie aérienne. Il n'y a que ça à faire, pas d'engrais, pas de compost pour l'instant, d'accord. Et puis vous verrez un peu comment il va réagir d'ici un mois ou un mois et demi. Même s'il perd 80 ou 90% de ses feuilles, il restera de la réserve, hein, c'est ligneux, il y a du bois, on peut avoir une bonne surprise. Mais il va quand même falloir croiser les doigts et surtout jouer du sécateur pour rééquilibrer tout ce monde-là.
Voilà, jouez bien du sécateur, Bernadette, et puis vous nous tenez au courant naturellement. Il nous reste une minute, Jean-Louis, oui. Nous oui. Partons vite à Notre-Dame de Sagnac. Catherine, allez, bonjour.
Oui, bonjour.
Je ne sais pas si nous aurons le temps d'être très prolixes pour répondre à vos problèmes cerisiers. Que se passe-t-il avec vos cerisiers, Catherine ?
Eh bien, écoutez, nous avons deux magnifiques cerisiers qui ont été plantés il y a environ 30-35 ans. Actuellement, ce ne sont que des boules de fleurs. Mm-hmm. Vraiment, ils sont absolument magnifiques. Mais malheureusement, depuis 30 ou 35 ans, nous avons dû manger deux fois des cerises, de nos deux cerisiers. Oh, oui. La plus grosse récolte que nous ayons faite, c'est, je crois, une année, 5 kilos. Voilà.
Ah oui, donc une belle année pour le clafoutis et point barre. Alors, dites juste une chose, on va être efficace. Quelle variété c'était ?
Alors, les variétés, je ne sais pas du tout.
Moi, je vais vous dire une chose. Il y a de fortes chances que ce soit un Moreau et un Burla pour être en fleur en ce moment. Ce sont des variétés. S'il n'y a pas un pollinisateur à côté, ça ne marche pas. Donc, soit il faut des merisiers dans l'environnement. Les merisiers, c'est les cerisiers sauvages qu'on voit en fleur en ce moment. Oui. Soit il va falloir planter proche d'eux, c'est-à-dire à 5-7 mètres, ou un bigarreau vent, ou un bigarreau géant des delphiniennes, qui sont les pollinisateurs généraux pour l'ensemble des cerisiers. Ça ne marchera pas sinon, il n'y a pas une masse de pollen compatible, ce qui explique que votre belle masse de fleurs, il y a le peu de production que vous avez. Donc il va falloir intervenir.
Donc Bigarreau vent et...
Bigarreau vent, V-A-N, et l'autre c'est géant des delphiniennes. Vous plantez ça en arbre-tige, ça vaut 40 euros, ça ira pas trop mal. Il faudra quand même 2 ans de plantation pour qu'il commence à fleurir. Oui, ça sera la seule solution.
Et vous nous direz au bout de 2 ans où nous en sommes. Merci à vous Catherine, très bon dimanche.
Merci beaucoup.
À Sagnac. Jean-Louis, merci beaucoup pour vos bons conseils.
Allez, une belle semaine arrive, on va s'en sortir.
Et voilà, oui, et on espère un temps plus sec pour dimanche prochain.
Allez.